Chapitre 4e, où l'on arrive et où le problème de la monnaie se pose en termes précis. Une longue attente de l'inconnu use des ressorts de la surprise. Nous voici installés, depuis 3 jours seulement, dans notre petite maison provisoire de Port des Singes, sur les rives du mont analogue. Et tout nous est déjà familier. De ma fenêtre, je vois l'impossible, au mouillage dans une crique, et baies qui s'ouvre sur un horizon pareil à tous les horizons marins, sauf qu'avec le cours du soleil, il s'élève sensiblement du matin à midi, puis s'abaisse de midi jusqu'au soir par un phénomène d'optique que Sogol, dans la chambre voisine, se casse la tête à étudier. Comme j'ai été chargé de tenir le journal de l'expédition, j'essaie depuis l'aube de raconter sur le papier notre arrivée sur le continent. Je n'arrive pas à rendre cette impression d'une chose à la fois tout à fait extraordinaire et tout à fait évidente, cette vitesse ahurissante de déjà-vu. J'ai essayé d'utiliser les notes personnelles de mes compagnons et elles m'aideront certainement. Je comptais aussi un peu sur les photographies et les films que Hans et Karl s'étaient proposés de prendre, mais au développement, aucune image n'apparaissait sur la couche sensible. Il était impossible, avec le matériel ordinaire, de rien photographier ici. Autre problème d'optique pour casser la tête de Sogol. Il y a donc 3 jours de cela, comme le soleil allait encore une fois disparaître à l'horizon et que nous lui tournions le dos, tendu à l'avant du bateau, un vent sans préliminaire se leva. Plutôt une puissante aspiration soudain nous tira en avant. L'espace se creusa devant nous. Un vide sans vent. Un gouffre horizontal à terre, impossiblement enlacé au sel. Le bateau craquait dans ses membrures et filait lancé infailliblement le long d'une pente ascendante jusqu'au centre de la mer. Français parfaitement, mais avec parfois le sourire intérieur de quelqu'un qui trouve fort étrange les expressions qu'il doit employer pour se rendre. Il traduisait certainement, sans hésitation et sans incorrection, mais il traduisait visiblement. Nous nous interrogea l'un après l'autre chacune de ces questions. Pourtant, toutes simples, qui étions-nous? Pourquoi venons-nous? Nous prenait au dépourvu.
Qui êtes-vous?
Qui suis-je? Nous ne pouvions pas lui répondre. Comme à un agent consulaire, un employé des douanes, dire son nom, sa profession, qu'est-ce que...
Cela signifie, qui es-tu?
Hé, qu'est-ce que tu es? Les mots que nous prononcions,
nous savons que désormais dans les guides
du mont analogue,
nous ne pourrions plus nous payer de mots.
Sogol, courageusement, prit sur lui de raconter brièvement notre voyage. L'homme qui nous accueillait
était bien un guide.
Toute autorité est en ce pays exercée par les guides de montagne qui forment une classe distincte et en dehors de leur métier propre de guide assument à tour de rôle les fonctions administratives indispensables dans les villages de la côte et de la basse montagne. Celui-ci nous donna les indications nécessaires sur le pays.
Et sur ce que nous devions faire.
Nous avions abordé dans une petite ville du littoral peuplée d'Européens, Français pour la plupart, et il n'y a pas ici d'indigènes. Tous les habitants sont venus d'ailleurs, des quatre coins du monde.
Comment?
Et chaque nation a sur la côte sa petite colonie.
Comment?
Se faisait-il que nous fussions tombés précisément sur cette ville, appelée Port des Singes, peuplée d'Européens occidentaux comme nous? Nous devions comprendre, plus tard, que ce n'était pas par hasard et que...
Le vent
nous avait aspiré et conduit là. C'était pas un vent naturel et fortuit, mais qu'il avait soufflé selon une volonté. Et pourquoi ce nom de Port des Singes, alors qu'il n'y avait pas un seul quadruman dans la région?
J'ai pas trop...
Mais cette appellation faisait ressurgir en moi, peu plaisamment, tout mon héritage d'occidental du XXe siècle, curieux.
Imitateur.
Impudique.
Agité.
Notre port d'arrivée ne pouvait être que Port des Singes. Nous devrions de là gagner, par nos propres moyens.
Les chalets de la base.
À deux jours de marche dans les hauts pâturages.
Où nous rencontrerions le guide qui pourrait nous conduire plus haut. Il nous fallait donc rester quelques jours à Port des Singes, pour préparer nos bagages. Et réunir une caravane de porteurs. Car nous devions emporter à la base assez de provisions pour un très long séjour. Conduit à une petite maison très propre et très sommairement aménagée où chacun de nous avait une sorte de cellule qu'il arrangea à son gré et pourvue d'une salle commune avec un âtre où nous nous réunissions pour les repas et le soir pour tenir conseil. Derrière la maison, un pic neigeux nous regardait par-dessus son épaule boisée. Devant s'ouvrait le port où se reposait notre bateau, dernier venu de la plus étrange marine qu'on peut voir dans les baies du rivage des navires
de tout temps.
S'aligner en fil serré, les plus vieux, encroutés de sel, d'algues et de coquillages, à ne plus être reconnaissants. Il y avait là des barques phéniciennes, des trirèmes, des galères, des caravelles, des goélettes, deux bateaux à roues aussi, et même un vieil aviso mixte du siècle dernier, mais ces navires des époques récentes étaient très peu nombreux. Sur les plus anciens, nous pouvions rarement mettre des noms de type ou de pays, et tous ces bâtiments abandonnés attendaient tranquillement la pétrification. Ou la digestion par la flore et la faune maritime, la désagrégation et la dispersion de substances qui sont les fins dernières de toute chose inerte, eussent-elles servi au plus grand dessein. Les deux premiers jours avaient été principalement occupés à transporter du yacht à notre maison, notre cargaison de vivres et de matériel, à vérifier le bon état de toute chose et à commencer à préparer les charges.
Et nous devions monter au chalet de la base, en deux étapes et en plusieurs voyages. À nous huit, avec l'aide du capitaine et des trois marins.
Tout cela se fit assez vite.
Pour la première étape qui demanderait une journée, il y avait un bon sentier. Nous pourrions
utiliser les
grands ânes, bruns et agiles du pays. Ensuite, tout devait être porté à dos d'homme. Il avait donc fallu louer des ânes.
Et engager les porteurs.
Le problème de la monnaie, qui nous avait si fort préoccupés, avait été résolu. Provisoirement, du moins dès notre arrivée. Le guide qui nous avait reçu nous avait remis à titre d'avance un sac
de jetons métalliques.
Et qui sert ici aux échanges de biens et de services. Comme nous l'avions prévu, aucune de nos monnaies n'avait cours. Chaque nouvel arrivant ou groupe d'arrivants reçoit ainsi une certaine avance qui lui permet de couvrir ses premiers frais et qu'il s'engage à rembourser pendant son séjour au continent du mont analogue. Mais comment rembourser?
Il y a plusieurs manières de rembourser. Et comme cette question de la monnaie est à la base, donner quelques détails à ce sujet. On trouve ici très rarement en basse montagne, plus fréquemment à mesure qu'on monte une
pierre.
Limpide est d'une extrême dureté, sphérique et de grosseur variable, véritable cristal.
Extraordinaire et inconnu sur le reste de la planète, un cristal courbe.
On l'appelle dans le français de port des singes, Peradam. Yvan Laps reste perplexe sur la formation et le sens primitif de ça. Il peut signifier, selon lui, plus dur que le diamant. Et il est, ou bien...
père du diamant.
Et l'on dit que le diamant est en effet le produit de la dégénérescence du
Peradam.
Par une sorte de quadrature du cercle, ou plus exactement de...
courbature de la sphère.
Ou encore, le mot signifie-t-il la pierre d'Adam. Ayant quelques secrètes et profondes connivences avec la nature originelle de l'homme. La limpidité de cette pierre est si grande et son indice de réfraction
si proche de celui de l'air,
malgré la grande densité du cristal,
que l'œil non prévenu la perçoit à peine.
Mais à qui la cherche?
Avec un
désir sincère
et un grand besoin.
Elle se révèle
par l'éclat de ses feux,
semblable à ceux des gouttes de rosée.
Le Peradam est la seule substance, le seul corps matériel auquel les guides du monde analogue reconnaissent une valeur.
Aussi est-il le gage de toute monnaie, comme l'or chez nous. En vérité, le seul mode loyal et parfait de payer sa dette, c'est de la rembourser en Peradam. Mais le Peradam est rare et difficile, voire dangereux, sa quête et son ramassage, car souvent il faut aller l'extraire
d'une fissure dans la paroi d'un précipice, ou
le prendre au bord d'une crevasse,
ou sur une pente de glace vive, où il est venu s'encastrer aussi après des efforts qui parfois durent des années, bien
des gens se découragent et redescendent sur la côte,
où ils cherchent des moyens plus faciles de payer leurs dettes. Celle-ci en effet peut être simplement remboursée en jetons. Et ces jetons peuvent se gagner par tous les moyens ordinaires. Les uns se font cultivateurs, d'autres artisans, d'autres débardeurs, et nous ne médirons pas d'eux, car c'est grâce à eux qu'il est possible d'acheter sur place des vivres.
De louer des ânes, et d'engager des porteurs.
Et si l'on n'arrive pas à payer sa dette, avait demandé Arthur Beaver.
Quand vous élevez des poussins,
lui fut-il répondu,
vous leur avancez du grain qu'ils devront, devenus boules, vous rembourser en œuf.
Mais lorsqu'une poulette... l'âge venu ne pompe pas, qu'en advient-il?
Et chacun de nous avait silencieusement avalé sa salive. Ce troisième jour de notre arrivée, tandis que je rédigeais ces notes, que Judith Pancake faisait quelques esquisses sur le pas de la porte, et que Sogol
s'évertuait à résoudre de difficiles problèmes d'optique,
les cinq autres étaient sortis de divers côtés. Ma femme était allée aux provisions, escartée de Hans et de Karl, qui, chemin faisant, s'étaient livrés à un assaut dialectique très ardu, à suivre, paraît-il, sur
de cruelles questions métaphysiques et paramathématiques.
Il s'agissait surtout de la courbure du temps et de la courbure des nombres.
Y aurait-il une limite absolue
à tout dénombrement d'objets réels et singuliers, après laquelle on retrouverait brusquement l'unité, disait Hans. Ou la totalité,
disait Karl.
Enfin, ils étaient rentrés fort et chauffés, et sans s'être aperçus des kilos de victuailles qu'ils ramenaient sur leur dos, légumes et fruits connus ou inconnus de nous, car les colons en avaient acclimaté de tous les continents, laitages, poissons, toutes sortes de nourriture fraîche.
Bienvenue, après un voyage en mer.
Le sac de jetons était gros, on ne regardait pas trop à la dépense. Et puis, disait Laps, il faut ce qu'il faut. Laps, lui, s'était promené dans la petite ville, bavardant, avec tout un chacun, afin d'étudier le parler et la vie sociale de l'endroit. Nous en fit un rapport fort intéressant de ce qui s'est passé entre nous après le déjeuner, m'ôte tout désir et tout moyen de vous en parler. Tout de même, si vous n'en avez guère envie, mais c'est pas pour mon plaisir que j'écris. Et quelques détails ici peuvent vous être utiles. La vie économique à Port des Singes, fort simple. Quoique animée, à peu près ce qu'elle devait être dans une petite bourgade européenne.
Le machinisme. Car aucun moteur thermique ni électrique n'est admis dans le pays. Tout usage de l'électricité est interdit.
Ce qui nous surprit assez dans un pays de montagne.
Interdit aussi l'usage des explosifs.
La colonie française dans sa majorité ai-je dit, à ses églises, son conseil municipal, sa police. Mais toute autorité vient d'en haut, c'est-à-dire des guides de haute montagne, dont les délégués dirigent l'administration et la police municipale.
Cette autorité est incontestée car elle est fondée sur la possession des Peradames.
Or, les gens qui se sont fixés sur le littoral ne possèdent que des jetons qui permettent les échanges indispensables à la vie des corps.
Mais ils ne confèrent aucune puissance réelle. Encore une fois, ne médisons pas de ces gens qui, découragés par les difficultés de l'ascension, se sont installés sur le rivage, en basse montagne.
S'ils sont faits à leur petite vie.
Leurs enfants.
Au moins, grâce à eux, grâce au premier effort.
Ils ont fait pour venir jusqu'ici, ou grâce au voyage fait.
Ils naissent sur le rivage.
Le rivage même du monde alors.
Soumis aux néfastes influences des
cultures dégénérées qui fleurissent nos continents, en
contact avec les hommes de la montagne, prêts.
Si le désir en eux se lève,
et si l'intelligence s'éveille,
à entreprendre le grand voyage.
À partir du lieu où leurs parents l'ont abandonné.
La plus grande partie de la population, cependant, semblait avoir une origine différente.
C'étaient les descendants des équipages, esclaves, marins de tout temps et de tous les temps, des navires conduits jusqu'à ses bords. Depuis les siècles les plus lointains par les chercheurs de la montagne, cela expliquait l'abondance dans la colonie de types étranges.
On devinait des sangs africains, asiatiques ou même de races.
Disparus.
Il fallait supposer...
Puisque les femmes avaient dû être rares parmi ces équipages de jadis, que la nature... Par le jeu de ses lois harmoniques avait peu à peu rétabli l'équilibre des sexes par un éclipse compensatoire de naissance féminine.
Dans tout ce que je raconte là, il y a d'ailleurs beaucoup de suppositions. D'après les rapports faits à l'APS par les gens de Port-des-Singes,
la vie dans les autres colonies du littoral est fort semblable à celle-là, à cela près, que dans chacune, chaque nation, chaque race a apporté ses mœurs, ses coutumes propres et sa langue.
Les langues.
Cependant, depuis le temps immémorial, les premiers arrivants sous l'influence des guides qui ont une langue spéciale.
Et malgré les apports nouveaux des colons contemporains, ont évolué d'une façon particulière. Et le français de Port-des-Singes, par exemple, présente bien des singularités avec des archaïsmes,
des emprunts,
et aussi des mots très nouveaux,
pour désigner des objets nouveaux.
Comme Perada.
Que nous avons cité. Ces singularités devaient s'expliquer plus tard, à mesure que nous prenions contact
avec le langage des guides communs.
Arthur Beaver, de son côté, avait étudié la flore et la faune de la région. Il revenait rose-vif d'une longue marche dans la proche campagne. Le climat tempéré de Port-des-Singes favorise l'existence des végétaux et animaux de mer. On y rencontre aussi des espèces inconnues. Parmi celles-ci, les plus curieuses sont un liseron arborescent, dont la puissance de germination et de croissance est telle qu'on l'emploie comme une dynamite lente pour disloquer les rochers, en vue de travaux de terrassement. Le lycoperdon incendiaire, grosse veste de loup qui éclate en projetant au loin ses spores mûres et quelques jours après, par l'effet d'une intense fermentation, prend feu, subitement.
Le buisson parlant.
Assez rare, sorte de
sensitive, dont les fruits forment
des caisses de résonance, de figures diverses, capables de produire tous les sons de la voix humaine
sous le frottement
des feuilles,
et qui répètent
comme des perroquets les mots qu'on prononce
dans leur voisinage.
Liu, cerceau,
myriapode,
de près de 2 mètres de haut,
se courbant en cercle,
se plaît à rouler à toute vitesse du haut en bas des pentes de vue.
Le lézard cyclope, ressemblant à un camion avec un autre pas bien nouveau, avec des os atrophiés, animal entouré d'un grand respect.
Malgré son air de vieille rapiste.
Et citons enfin parmi l'autre la
chenille aéronaute, sorte de ver à soie, qui par beau temps gonfle en quelques heures.
Des gaz légers produits dans son intestin,
volumineuse qui,
dans les airs, elle ne parvient jamais à l'état adulte et se reproduit tout bêtement par parthénogenèse larvale.
Ces espèces étranges avaient-elles été importées
en des temps très lointains, venant de diverses parties
de la planète. Bien y avait-il des plantes et des animaux réellement indigènes sur le continent du Moyen-Orient.
Beaver ne pouvait encore trancher la question. Un vieux breton établi menuisier à Port-des-Singes lui avait raconté et chanté d'anciens mythes. mêlait, semblait-il, de légendes étrangères et d'enseignements venus des guides qui touchaient au sujet. Les guides que nous interrogeâmes par la suite sur la valeur de ces mythes nous firent toujours
des réponses d'apparence évasives.
Ils sont aussi vrais,
nous dit l'un d'eux,
que vos contes de fées
et vos théories scientifiques.
Un couteau,
dit un autre,
n'est ni vrai ni faux, mais celui qui l'empoigne par la lame est dans l'erreur.
Un de ces mythes disait à peu près ceci.
Au commencement, la sphère et le tétraèdre étaient unis en une seule forme impensable, inimaginable. Concentration et expansion, mystérieusement,
unis en une seule volonté qui ne voulait que soi.
Séparation de l'unique reste l'unique.
La sphère fut l'homme primordial.
Qui voulant réaliser séparément
tous ses désirs et possibilités,
ses miettes là en figure de toutes les espèces.
Le tétraèdre fut la plante primordiale, qui engendra demain tous les végétaux.
L'animal fermé à l'espace extérieur se creuse.
Se ramifie intérieurement, poumon, intestin, pour recevoir.
La nourriture se conserver, se perpétuer, la plante.
Épanouie dans l'espace extérieur, se ramifie. Extérieurement, pour pénétrer la nourriture, racine, feuillage.
Quelques-uns de leurs descendants hésitèrent à jouer
sur les deux tableaux.
Ce furent les animaux-plantes qui peuplent les mers. L'homme reçut un souffle et une lumière. Lui seul reçut cette lumière.
Il voulut voir
sa lumière.
Et en jouir sous des figures multiples, il fut chassé par la force de l'unité. Lui seul fut chassé. Il alla peupler les terres. De l'en dehors, peinant,
se déguisant,
se multipliant par désir de voir sa propre lumière et d'en jouir.
Parfois un homme se soumet
en son cœur,
soumet le visible
au voyant, et il cherche à revenir à son origine. Il cherche, il trouve, il revient à son origine. Étrange structure.
Géologique du continent.
Lui valait la plus grande variété de climat.
Et l'on pouvait, paraît-il, à 3 jours de marche de Port de Singe, trouver d'un côté la jungle tropicale, d'un autre
des pays glaciaires, ailleurs la steppe, ailleurs le désert, le sable.
Chaque colonie s'était formée
au lieu le plus conforme à sa terre natale.
Tout cela, pour Beaver, était à explorer. Karl se proposait d'étudier les jours suivants les origines asiatiques, qu'il supposait aux mythes, dont Beaver avait rapporté quelques échantillons. Hans et Sogol devaient installer
sur une colline proche un petit observatoire,
d'où ils referaient sur
les astres principaux, dans les conditions optiques particulières du pays, les mesures classiques de parallaxe, distance angulaire, passage au méridien,
spectroscopie et autres, afin d'en déduire des notions précises sur les anomalies causé dans la perspective cosmique par la coque, l'espace courbe, entourant le monde à l'œuvre.
Yvan Laps tenait à poursuivre ses recherches linguistiques et sociologiques. Ma femme
brûlait d'étudier la vie religieuse du pays.
Les altérations, et surtout, présupposait-elle
les purifications et les enrichissements apportés dans les cultes
par l'influence du mot analogue,
soit dans les dogmes,
soit dans l'éthique,
soit dans les rites,
soit dans la musique
liturgique,
l'architecture et les autres arts religieux.
Mystique, en ces derniers domaines, et spécialement ceux des arts plastiques, s'associerait à elle, tout en poursuivant son gros travail d'esquisse documentaire, qui avait pris soudain une importance considérable pour l'expédition depuis l'échec de toutes les tentatives photographiques. Quant à moi, j'espérais puiser dans les divers matériaux ainsi recueillis par mes compagnons de précieux éléments pour mes recherches sur la symbolique, sans négliger pour cela mon travail principal,
qui
est la rédaction de notre journal de voyage.
Ce journal de voyage, qui devait se réduire, finalement, à ce récit que vous entendez. Tout en nous livrant à ces recherches, nous entendions bien, pour en profiter, à grossir notre stock de vivres.
Alors, quand partez-vous ?
Cria une voix venant de la route, tandis qu'après le déjeuner, nous parlions entre nous de tous ces passionnants projets. C'est le guide, délégué à Port-des-Singes, qui nous avait interpellés. Sans attendre de réponse, il continuait son chemin, avec cet air de ne pas bouger qu'ont les montagnards. Cela nous éveilla de nos rêves. Ainsi, avant même d'avoir fait les premiers pas, nous glissions déjà vers l'abandon. Oui, vers l'abandon. Car c'était abandonner, notre but, et trahir notre parole, que de passer une seule minute à satisfaire une curiosité inutile. Bien misérable, nous parurent tout à coup nos enthousiasmes d'explorateurs, et les prétextes habiles dont nous les parions. Nous n'osions pas nous regarder. On entendit gronder, sourdement, la voix de Sokol.
Clouer ce vilain hibou à la porte et partir sans se retourner.
Nous le connaissions tous, ce vilain hibou de la cupidité intellectuelle. Et chacun de nous aurait eu le sien à clouer à la porte, sans compter quelques...
jacassantes.
Dinde au paradis.
Tourterelles roucoulantes. Et les oies grasses. Mais tous ces oiseaux-là sont tellement ancrés, hantés à notre chair, que nous ne pourrions les en extraire sans nous déchirer les entrailles.
Il fallait vivre.
Avec eux.
Encore longtemps.
Et souffrir. Et bien connaître. Jusqu'à ce qu'ils tombent. De nous.
Comme les coups.
Une maladie.
Tombent d'elles-mêmes à mesure que l'organisme retrouve la santé, il est mauvais de les arracher prématurément.
Nos quatre hommes d'équipage à l'ombre d'un peuple jouaient aux cartes. Et puisqu'ils n'avaient, eux, aucune prétention à escalader les cimes,
leur manière de passer le temps nous parut comparée à la nôtre des plus raisonnables.
Comme ils devaient pourtant nous accompagner à la base,
et nous y installer,
nous les appelâmes
pour préparer ensemble le départ que nous fixions. Au lendemain, coûte que coûte, c'est bientôt dit.
Le lendemain matin, après que nous eûmes intensément travaillé toute la nuit, préparé les charges, tout était prêt, les ânes, les porteurs rassemblés, mais il se mit à pleuvoir. Averse.
Il plut l'après-midi, il plut la nuit, il plut le lendemain, il plut à saut pendant 5 jours.
Les chemins détrempés étaient sûrement impraticables, nous dit-on. Il fallait employer ce délai.
Nous fîmes d'abord une révision de notre matériel.
Toutes sortes d'appareils d'observation et de mesures qui nous avaient paru jusqu'alors plus précieux que tout nous devinrent risibles. Surtout après nos malheureuses expériences photographiques. Et quelques-uns se montraient d'ores et déjà inutilisables. Les piles de nos lampes électriques étaient tout hors d'usage. Il faudrait les remplacer par des lanternes. Nous nous débarrassâmes ainsi d'une assez grande quantité d'objets encombrants, ce qui nous permettrait d'emporter d'autant plus de provisions. Nous parcourûmes donc les environs pour nous procurer des vivres supplémentaires, des lanternes et des vêtements du pays. Ceci en effet était, quoique très simple, fort supérieur au nôtre. Résultat de la longue expérience... des anciens colons.
De même, on trouvait chez les marchands spécialisés toutes sortes d'aliments desséchés et comprimés qui nous seraient extrêmement précieux.
D'abandon en abandon.
Nous finîmes même par laisser là les
potages portatifs inventés
par Beaver, qui après une journée de maussade d'hésitation partit d'un grand éclat de rire et déclara que c'était des joujoux stupides qui ne nous auraient donné que des désagréments. Il hésita plus longtemps à renoncer aux appareils respiratoires et aux vêtements chauffants. Finalement, on décida de les laisser, quitte à venir les reprendre.
Pour une nouvelle tentative, si c'était nécessaire.
Nous laissâmes tous ces objets à la garde de notre équipage, qui les transporterait dans le yacht où les quatre hommes devaient s'installer après notre départ. Car il fallait laisser la maison libre. de nouveaux arrivants. Éventuels. La question des appareils respiratoires
avait été très débattue entre nous.
Fallait-il compter, pour affronter les hautes altitudes, sur l'oxygène, en bouteille
ou sur l'acclimatation?
Les récentes expéditions dans l'Himalaya n'avaient pas tranché le problème, malgré de brillants succès des partisans de l'acclimatation. Nos appareils étaient d'ailleurs bien perfectionnés.
Bien plus.
Que ceux employés par les dites expéditions
beaucoup plus légers.
Ils devaient surtout être plus efficaces parce qu'ils fournissaient à l'alpiniste non de l'oxygène pur mais un mélange, soigneusement dosé d'oxygène et de gaz carbonique. La présence de ce dernier gaz, excitateur des centres respiratoires,
devait permettre en effet de réduire considérablement les quantités d'oxygène
nécessaires.
Mais à mesure que nous réfléchissions et que nous recueillions des renseignements sur la nature des montagnes que nous aurions
attaquer.
Il devenait de plus en plus certain que notre expédition serait très longue, elle durerait
sûrement des années. Une
bouteille d'oxygène n'y suffirait pas, et nous n'avions aucun
moyen de les recharger là-haut.
Tôt ou tard, il nous faudrait donc y renoncer.
Mieux fallait y renoncer tout de suite.
Afin de ne pas retarder par leur usage
notre acclimatation.
On nous affirma d'ailleurs qu'il
n'y avait pas d'autre moyen pour subsister dans l'eau et haute région
de ces montagnes
que l'accoutumance progressive, grâce à laquelle, nous dit-on, l'organisme humain se modifie.
S'adapte dans une mesure qu'on nous a encore soupçonné. Sur le conseil du chef de nos porteurs, nous échangeâmes nos skis, qui, nous dit-il, étaient fort encombrants dans certains passages, accidentés comme des sortes de raquettes étroites, pliantes et tendues.
De la peau d'une sorte de marmotte.
Leur principale utilité est de faciliter la marche en neige molle.
Mais elle permet aussi de glisser assez rapidement dans les descents.
Pliée, elle tient les aimants dans les sacs.
Nous gardions aux pieds nos souliers ferrés. Nous emportions, pour les remplacer plus haut, les mocassins du pays, en cuir d'arbre, sorte d'écorce.
Qui travaillait tient du liège, du caoutchouc.
Cette substance isole très bien la chaleur et incrustée
de silice.
Elle adhère à la glace, presque aussi bien qu'au rocher, ce qui nous permettrait de nous passer du crampon.
Dangereux.
Aux très hautes altitudes, parce que leur courroie, serrant les pieds, gêne la circulation du sang. Prédispose aux gelures. Par contre, nous gardâmes nos piolets, beaux outils, qui désormais ne pourraient guère plus être perfectionnés que la faux, par exemple. Nos pitons aussi et nos cordes de soie, et tout de même quelques très simples instruments.
Époche, boussole, altimètre, thermomètre. Bienvenue. Donc, était cette pluie qui nous permettait de faire d'utiles réformes dans notre équipement. Nous marchons beaucoup chaque jour. Sous les averses, afin de recueillir renseignements, vivres et objets divers, et grâce à cela aussi nos jambes. Reprenez l'habitude de fonctionner, quelque peu oublié.
Après notre longue navigation, c'est au cours de ces journées de pluie que nous commençâmes à nous appeler mutuellement par nos prénoms. Cela s'était amorcé par la coutume que nous avions déjà de dire Hans et Karl, et ce petit changement n'était pas un simple effet de l'intimité. Si nous nous appelions maintenant Judith,
René,
c'est ma femme.
Pierre.
Arthur.
Yvan.
Théodore. C'est mon prénom. Il y avait à cela un autre sens. Pour chacun de nous. Nous commencions à nous dépouiller de nos vieux personnages. En même temps que nous laissions sur le littoral nos encombrants appareils, nous nous préparions aussi à rejeter l'artiste, l'inventeur, le médecin, l'érudit, le littérateur. Sous leur déguisement, des hommes et des femmes montraient déjà le bout de leur nez. Des hommes, des femmes. Et toutes sortes d'animaux aussi.
Pierre Sogol.
Encore une fois, nous donna l'exemple, sans le savoir et sans se douter non plus qu'il devenait poète. Il nous dit un soir, alors que nous venions de tenir conseil sur la plage avec le chef de nos porteurs et notre agnié. Je vous ai conduit jusqu'ici, et je fus votre chef. ici, je dépose ma casquette galonnée, qui était couronne d'épines.
Pour la mémoire que j'ai de moi.
Au fond non troublé.
Un petit enfant se réveille et fait sangloter le masque du vieillard. Un petit enfant qui cherche père et mère. Qui cherche avec vous l'aide et la protection. La protection contre son plaisir. Et son rêve. L'aide pour devenir ce qu'il est. Sans imiter
personne. Disant cela, Pierre, du bout d'un bâton, fouillait dans le sable. Ses yeux soudain se fixèrent. Il se baissa et ramassa.
Son premier, notre premier père Adam.
Le chef des porteurs et l'ânier devinrent pâles et ouvrirent de grands yeux. Tous deux étaient des vieux qui avaient tenté l'ascension et s'étaient découragés à cause de la question de la monnaie.
Jamais, dit le premier, jamais le nombre d'hommes on avait trouvé si bas.
Sur la plage même, c'est peut-être un hasard unique. Que serait-il possible qu'un nouvel espoir nous soit ainsi donné?
Repartir?
Un espoir qu'il avait cru.
Luisait à nouveau en son cœur.
Celui-là, un jour, reprendrait le chemin.
L'ânier, à lui aussi, ses yeux brillaient.
Mais de convoitise.
Hasard, dit-il.
Pur hasard.
On n'y prendra plus.
Il faudrait,
dit Judith,
que nous nous confectionnons de petits sachets bien solides que nous porterions au cou. Pour y mettre les pères Adam que nous trouverons.
C'est en effet une précaution indispensable.
La pluie avait cessé. Depuis la veille, le soleil avait commencé à sécher les chemins. Nous devions partir le lendemain.
À l'aube.
Ce fut...
avant de nous coucher.
Notre dernier préparatif.
Chacun, avec
grand soin, se fabriqua
un sachet pour les Père Adam à venir.